bloquer le centre. Ça arrive jusqu'à Klos. La frappe de Klos. Et ça va au fond. Ça va au fond. Jonathan Klos est de retour. Jonino is back. Oui, mesdames, messieurs. Oh là là, on se posait la question. On disait il y a une minute, Jonathan Klos est dans la gestion, il ne peut pas prendre de risque, contrôle et frappe enchaînée du numéro 7 de l'Olympique de Marseille qui fête son but devant le virage sud. Allez Jaco.
Allez mon poulet.
Allez Pierre-Emerick Aubameyang. Allez mon chéri. Est avec toi. Vas-y mon petit. Mets-le au fond. Marc. Le deuxième but de l'Olympique de Marseille, la concentration de l'international gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas tiré, je le rappelle, lors de la séance de tir au but. C'est parti, ça va au fond, ça va au fond. Pierre-Emerick Aubameyang, le roi du Gabon, qui donne le deuxième but à l'Olympique de Marseille sur ce pénalty. Merci au roi du Gabon de marquer encore et toujours. Il est parfait sur pénalty et il est récompensé pour son match plein d'admiration. J'arrive plus à parler, mon Jaco. Je suis fatigué. On est fatigué. Mais l'OM met 2-1.
Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. Deux adresses, Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé.
Maritima. Le débrief.
Partout dans ce derby du sud entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, Terrain Moffi avait ouvert le score à la 13e minute. C'est Jonathan Klos qui égalise à la 31e de magnifique but d'une reprise de volée pour son retour de blessure et un des tournants du match, notamment avec l'expulsion de Faris Moumbagna dans le temps additionnel de la deuxième, de la première période. Malgré cette réduction numérique, l'Olympique de Marseille est passé devant avec un but sur pénalty de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais voilà, les Marseillais se sont fait rejoindre à la 72e par un but de Melvin Barr. Si vous souhaitez nous rejoindre avec Jaco, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jacques, est-ce que pour toi le résultat nul ce soir est logique, sachant que Nice a mené au score et l'Olympique de Marseille a mené au score? Les deux équipes ont finalement mené au score ce soir.
Oui, oui, sur l'ensemble du match, on va dire que c'est logique parce qu'on est à 11 contre 10, mais encore une fois, il y a eu de la grande maladresse. Alors, on va pas parler de l'exploit technique de Aubameyang qui s'est lui procuré, s'il avait marqué, c'était lui qui s'est procuré le but. Mais on peut pas et on ne doit pas rater des occasions comme a raté Illiman Ndiaye. C'est tout simplement inadmissible et ça aurait pu effectivement nous donner la victoire.
Ouais, on va parler notamment de ce raté d'Illiman Ndiaye. On va en parler aussi du retour de Jonathan Klos. Et voilà, un acteur majeur aussi de cette partie, c'est monsieur l'arbitre Jérémy Pignard. On reviendra sur ses décisions prises. Le carton rouge, est-ce qu'il y avait rouge? Enfin, deuxième jaune contre Faris Moumbagna. Est-ce qu'il y avait pénalty pour l'Olympique de Marseille? On en parlera avec nos supporters par téléphone. On va accueillir notre premier auditeur qui nous a rejoint. C'est Yves. Salut à toi, Yves.
Oui, bonjour, bonjour l'équipe. Bah écoutez, c'est des chances d'aller voir
Yves, une première réaction après ce match nul entre l'OM et Nice.
Ben écoutez, c'est des chances d'aller voir les psychanalystes, ça, hein, parce que franchement, c'est il y a trop de choses qui se mélangent. Alors on a plusieurs facteurs. On a un courage quand même global de l'équipe qui est à souligner, parce que bon, les joueurs sont courageux. Après, on a des manques énormes, quoi. Et puis, on s'appuie que sur trop peu de joueurs pour faire la différence. Et en plus, derrière, on a l'effet de jeu. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et cette saison, elle est catastrophique, hein. Et moi, franchement, j'ai bien peur qu'on aille au pire, hein. C'est-à-dire que ça va être très difficile en demi-finale. Et j'ai bien peur qu'on se retrouve avec rien. Mais après, il faudra se poser la question, à qui la faute, hein. Les joueurs qui sont pas bons, Ils sont pas bons. Ils ne doivent pas être sur le terrain. C'est ceux qu'ils auront recrutés. Hein. Voilà le sentiment qu'on a.
Tu parles des joueurs, de certains, dans ton analyse, de certaines situations.
Voilà, alors
est-ce que comme ce qu'a fait Pierre-Emerick Aubameyang, notamment cette magnifique, très très belle action de Pierre-Emerick Aubameyang qui récupère le ballon presque au milieu du terrain, qui élimine 3-4 joueurs niçois qui se retrouvent dans la surface de réparation et qui pique ce ballon devant Marcin Bulka qui vient mourir sur la barre transversale. Est-ce que ça nous montre encore une fois que l'Olympique de Marseille, malheureusement, avec Pierre-Emerick Aubameyang, avec un Pierre-Emerick Aubameyang beaucoup trop esselé à côté de lui?
C'est la colonne vertébrale, hein. C'est actuellement c'est Balerdi, puisque Balerdi derrière, Veretout au milieu et Pierre Aubameyang, il n'y a que ces trois. Tu peux pas gagner, tu peux pas faire des résultats avec si peu de joueurs capables de porter l'équipe et de faire la décision. C'est pas possible. Alors, quelques résultats, il y a eu des miracles. Voilà, on a eu des miracles. Le but contre en quart de finale, voilà. Mais on peut pas, c'est pas possible, le manque de talent, ça me fait penser à l'école, hein. Vous avez une équipe, bon, et les élèves, ils sont besogneux, mais ils sont pas bons, et d'un an, on ne fait jamais le cheval de course. Il y a trop de joueurs qui ne sont pas au niveau, sans compter ceux qu'on avait avant, comme Gueye. Il a plus envie de jouer, Gueye, il était pas mauvais, c'est l'ombre de lui-même. Harit, depuis qu'il a été blessé, je sais que revenir d'une blessure, c'est difficile, mais le Harit de maintenant, il n'y a rien à voir avec le Harit de l'époque. Et puis toutes ces recrues là, qu'on a ratées, oh Longoria, c'est depuis l'hiver dernier, Malinowski, Vitina, ils nous amènent que des recrues. Même contre Longoria.
Est-ce que toi tu as peur, Yves, que finalement l'Olympique de Marseille perde tout dans cette saison, parce que l'Olympique de Marseille, on le rappelle, va jouer en demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Et quand on regarde le classement, on voit que les compteurs seront mis à zéro parce que toutes les équipes ont joué 30 matchs et l'OM est 8e avec 41 points, à 5 points de Lille, 6e, première place européenne.
Oui, moi j'ai peur de la catastrophe. Et ça me fait d'autant plus peur que les équipes qu'on rencontre, elles sont pas terribles, ni s'ils sont pas extraordinaires, hein. Toulouse, on avait gagné. Ah, mais l'équipe de Tudor l'année dernière, mais on finit second, les doigts dans le nez, hein. Les doigts dans le nez cette année, hein. Oui, mais cette année, c'est plus la même équipe. Voilà.
C'est plus la même équipe, c'est pas le même coach. Et on a vu que voilà, tous les
mais c'est
les
pas le coach, moi, bon, il n'en veut pas.
Il y a eu des changements de coach. Il y a eu un grand changement d'effectif avec beaucoup de recrues qui sont arrivées, beaucoup de départs aussi par rapport à la saison passée. Donc c'est vrai que pour retrouver une stabilité, c'est vrai que c'est compliqué.
Non, et puis quand même, il y a des questions de
Marseille. Merci en tout cas, Yves. Rapidement, très rapide, Yves.
Oui, très rapidement. Pourquoi tant de blessés? Mauvaise préparation, il y a un problème, mauvais temps médical. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et ça va être très compliqué pour qu'on arrive à gripper quelque chose, même si je le souhaite du fond du cœur. Voilà.
Merci Yves d'avoir été avec nous après ce match nul entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Jaco, revenons sur cette première mi-temps de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a vu un OM plutôt cohérent qui essaie de mettre des choses en place, mais malheureusement ils se sont fait cuire à froid après cette ouverture du score des Niçois.
Oui, il y a une première mi-temps qui me fait quand même poser certaines questions. Je le disais à l'antenne tout à l'heure, Jean-Louis Gasset, quand il est arrivé, il disait on va faire des choses simples, et je le rejoignais parce que cette équipe, elle était dans le doute, et j'ai trouvé que par contre dès les premières minutes on a pris des risques inutiles. On se rappelle de Paul Lopez, combien de fois il a failli se faire prendre avec cette fameuse passe plein axe dans un joueur qui est dos au jeu, le nombre de temps qu'il a mis pour pouvoir essayer de dégager et nous mettre en difficulté, alors que quand il est arrivé, Jean-Louis, on avait des ballons, on dégageait loin et on allait chercher le deuxième ballon, au moins on sortait.
Donc, alors ça Jaco, juste pour te reprendre, beaucoup de gardiens du centre de formation de l'Olympique de Marseille le font dans toutes les équipes de jeunes, attendent qu'un attaquant vienne le chercher pour ensuite relancer court.
Oui, mais ça je m'en fous, un centre de formation c'est le centre de formation. Là, nous, on est en plein doute. Il y a énormément d'argent en jeu et on doit chercher l'efficacité. Il faut aussi avoir une méthode de travail avec des gens adaptés. À partir du moment où tu n'as pas les gens qui sont en capacité de faire ce genre de relance, quand tu as des joueurs qui s'appellent Paul Lopez, qui ballent au pied, ne sont pas performants, cette stratégie ne convient pas. Enzo, si tu me mets à moi arrière droit et que tu essayes de me faire relancer et que je m'en sors pas, il faudra pas m'en vouloir, je suis pas bon, tu comprends? Donc voilà, et pourtant tu as la méthode. Peut-être qu'à 20 ans j'aurais pu le faire, mais c'est une stratégie. Tu mets une stratégie en place, encore faut-il avoir les joueurs. On n'a pas les joueurs du Paris Saint-Germain capables d'éliminer, capables en un contre un de pouvoir faire une bonne passe. On ne les a pas.
et on ne les a pas. Voilà, on le répète avec Jacques, ces joueurs techniques, en tout cas complémentaires pour comme le disait Jacques, ressortir d'un espace très très réduit. On va en parler avec Kai qui nous a rejoint par téléphone. Salut à toi, Kai.
Bonsoir Enzo, bonsoir Jaco.
Kai, une première mi-temps finalement où les Marseillais ne sont pas récompensés parce qu'ils méritent peut-être de revenir à la pause en étant devant.
Ah oui, franchement, tu mérites largement d'être à 1-0 à la mi-temps. La faute, déjà, il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas faute du tout de Mouvagnan. Il va sur le premier sur le ballon, il se télescope. Il n'y a jamais de la vie, il y a faute, et jamais de la vie, il y a carton jaune et deuxième carton jaune. C'est encore une fois, je pense que on a un directeur, enfin, je ne sais pas ce qu'il est, je sais pas trop ce qu'il est, Benassia, surtout il est bénévole, mais je veux dire, il parle beaucoup des joueurs, mais il va falloir aussi qu'à un moment donné, qu'on ouvre la bouche contre les arbitres, parce qu'on le fait, mais à demi-teinte, à demi-mot. Mais voilà,
on a vu Mehdi Benassia qui est entré dans le vestiaire arbitre pendant la pause. Ben on va parler de la prestation de Jérémy Pignard. Premièrement, sur le deuxième carton jaune de Faris Moumbagna. Ton sentiment là-dessus?
Ah ben moi, pour moi, comme j'ai dit, il y a le premier, d'accord, il y a semelle, carton jaune, mais le deuxième non. Il aurait dû attendre, parce qu'il a attendu quand même un moment. Ensuite, il donne le jaune, il donne le rouge derrière. Non, pour moi, ça mérite jamais un carton rouge. Ça. Je suis désolé.
Jacques, il nous a pénalisé sur cette situation, Jacques.
Mais la situation, on l'a vu, on l'a revu. On a la chance à Marseille d'avoir des écrans de contrôle pour se rendre compte que monsieur l'arbitre s'est trompé. Et quand on parle d'évolution dans le football, il faudrait à un moment donné pouvoir, dans une conférence de presse d'après-match, pouvoir poser certaines questions à monsieur l'arbitre et qu'il puisse nous répondre avec des images réelles. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'il nous explique, peut-être nous, aux gens innocents, aux gens incompétents, qu'il y a peut-être des explications, mais moi, personnellement, je ne les ai pas vues. Je pense que quand tu as un arbitre, parce qu'il faut aussi être pédagogue. L'arbitre, c'est aussi sa façon d'arbitrer, elle est là. C'est-à-dire que voir le joueur lui dire, monsieur Moumbagna, attention, ce genre de faute mérite un jaune, il reste 2 ou 3 minutes avant la mi-temps, calmez-vous, j'ai pas envie de vous mettre un carton rouge que vous finissiez à 10. On appelle ça un homme intelligent, parce que là, il s'aborde le match. Mais non, là, pour pouvoir faire une crise d'autorité, il nous fait cette erreur. Voilà ce qu'il en est.
On rappelle que sur cette action, c'est un deuxième carton jaune et que la VAR ne peut pas intervenir. Oui, Kai.
Oui, ben surtout, ben justement, j'allais dire, ce qui m'arrange, c'est que la VAR ne peut pas intervenir quand il s'agit d'un match comme ce soir. Moi, je me rappelle l'année dernière, un match entre Paris et Nantes, où il donne un carton rouge à un Nantais, et il revient dessus. Il revient sur le carton jaune.
Mais là, c'est un deuxième carton jaune. Deuxième carton jaune, voilà. La VAR ne peut pas revenir. Est-ce que ça peut être un élément d'amélioration pour la saison prochaine, par exemple, où le VAR pourrait intervenir sur un deuxième carton jaune pour dire à l'arbitre, ben voilà, il n'y a pas de deuxième carton jaune. En tout cas, le joueur ne mérite pas un deuxième carton jaune.
Mais oui, parce que je pense qu'à la VAR, ils n'ont pas besoin de 50 ralentis pour voir ce que nous on a vu. Sur deux ralentis, on a rapidement vu qu'il ça méritait jamais un jaune. Donc la VAR peut dire annule ton jaune. On en a déjà vu. On a vu avant que la VAR existe des arbitres annuler des jaunes. Je l'ai vu, que ce soit en Italie, en Allemagne.
Je ne crois pas, Kai.
Pardon?
Non, Kai, pour te rappeler un petit peu le règlement, la VAR ne peut pas intervenir sur un carton jaune. La VAR peut intervenir sur un rouge, c'est-à-dire un rouge direct. Là, c'est l'accumulation de jaunes qui font un rouge. Mais ça, éventuellement, je comprends ce que tu veux dire, et tu as entièrement raison. Mais ça sera une nouvelle loi. Pour l'instant, la VAR n'a pas le droit et n'a pas les capacités à dire il n'y a pas jaune. Ils n'en ont pas les possibilités.
Passons sur une autre action, messieurs. C'est une autre action importante du match, c'est le pénalty accordé pour l'Olympique de Marseille. Pour toi, est-ce qu'il y a pénalty, Kai, parce qu'on voit que le ballon est parti, mais qu'il y a une grosse semelle?
Bah, moi, pour moi, celui-là, il l'aurait pas sifflé. Il l'aurait sifflé pour moi dans les deux cas. C'était la possibilité. Effectivement, il y a la grosse semelle qui fait que c'est impressionnant et que tu crées au scandale. Tu dis, ouais, il faut qu'il siffle penalty. Il l'aurait pas sifflé. Je sais pas si. Sincèrement, sur l'action-là, si j'aurais crié au scandale. Maintenant, comme on dit, il y avait quand même cette grosse semelle que je pense qui fait partie de la décision de l'arbitre qui pense que le joueur niçois doit quand même se retenir, même si voilà, sur le coup il veut dégager. Mais pour moi, voilà, pour moi il n'y a pas scandale de le siffler.
Est-ce que cette situation, Jacques, elle montre pas aussi l'incompétence un petit peu de l'arbitre ce soir, et que peut-être l'arbitre a perdu le fil du match? Parce qu'on le rappelle, on ne sait pas s'il ne siffle pas penalty, parce que c'est un peu confus, hein, pour
oui, j'ai pas compris
auditeurs.
Non plus, ouais.
Il y a un carton jaune qui est mis par l'arbitre, et après il va voir les images, puis il siffle penalty. C'est vrai qu'on n'a pas très bien compris au stade.
Mais je suis comme toi, j'ai pas bien compris, parce que à partir du moment où tu mets un carton jaune, c'est que tu signales qu'il y a une faute. D'accord ? Jusque-là, on a compris. Donc, après, il va à l'information pour savoir, à la VAR, pour confirmer, il avait déjà sifflé penalty. Tu ne peux pas retourner là-dessus. Tu as signalé faute et carton jaune. Dans tous les cas de figure, d'un coup, tu dis, il n'y a pas penalty, donc il faut que tu annules le penalty, la faute et le carton jaune. Donc après, mais même au niveau de la gestuelle, on nous a tous appris, quand il y a penalty, depuis la nuit des temps, il sort de son endroit, de sa télé où il y a la VAR, il court vers le point de penalty, il montre avec le doigt le point de pénalty.
Il montre la VAR également.
Voilà, avant, il montre le cadre et il montre le point de pénalty. Et l'ensemble des supporters, l'ensemble des consultants, l'ensemble des journalistes a compris qu'il y avait pénalty. Ben là, monsieur l'arbitre va jusqu'au point de pénalty, il tape sa main sur l'autre main, ça voudrait dire, nous on a compris que ça voulait dire qu'il y avait un contact.
Une semelle.
D'accord, il y avait semelle. D'accord, monsieur l'arbitre, c'est du chinois, et ben il faut comprendre le chinois maintenant, je suis désolé.
Bon, une décision, on va dire, en défaveur de l'Olympique de Marseille, ce deuxième carton jaune contre Faris Moumbagna et ce pénalty, bon, qui est assez discutable. Kai, est-ce que c'est l'Olympique de Marseille qui perd deux points ce soir, ou est-ce que c'est l'OGC Nice qui perd deux points? Comment tu te positionnes, toi, là-dessus?
Bon, c'est nous qu'on perd deux points. On avait, je pense que avec le match de ce soir, on était en 16e de finale ce soir du championnat. Tu avais derrière un 8e, un quart, un demi pour arriver le plus haut possible. Ce soir, tu repères deux points. C'est pour moi maintenant, il te reste, tu as Lens qui arrive derrière. Est-ce que les têtes des joueurs vont être dans ce match-là, ou vont être déjà à cette demi-finale de jeudi prochain? Je pense, pour moi, là, sincèrement, on avait déjà beaucoup de retard, que pour moi l'Europe est définitivement voilà, s'il reste cette possibilité, si Paris gagne la Coupe de France, que voilà, mais bon, c'est avec des si, on fait beaucoup de bois. Je veux dire, là, je pense que pour moi, on perd deux points ce soir. Mais à l'image de la saison, tu les as perdus ce soir, tu les as perdus un peu à tous les matchs. On a fait 5 victoires, on a fait 5 défaites, peut-être on est parti pour 5 nuls, hein. on fait des séries avec Gassé, et du coup, voilà, c'est dommage parce qu'il y avait la place, que ce soit en première mi-temps, même à 10 contre 11, il y avait la place de faire autre chose. Et malheureusement, voilà, il y a ces sorties de Lopez un peu hasardeuses, il y a cette remise en plein axe de Mourinho sur la tête, sur le dégagement de la tête. Voilà.
C'est un résultat frustrant, ouais. Résultat frustrant et scénario
frustrant pour
l'Olympique de Marseille ce soir face à l'OGC Nice. Merci Kai, hein, d'avoir été avec nous ce soir sur nos antennes sur Maritima, après ce match nul de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. On rappelle, deux buts partout. Très rapidement, Jacques, parce qu'on va rebondir sur ce que disait Kai, avec deux matchs importants finalement, la réception de Lens dimanche, la réception de l'Atalanta jeudi prochain. Le match le plus important, c'est lequel? Parce qu'il faudra se positionner au bout d'un moment, si on est un membre du staff.
Bien sûr que le match le plus important, ce sera l'Atlanta, puisque ce soir tu as fait un match nul. Le match de l'Atlanta, il peut te propulser éventuellement en finale de Coupe d'Europe. Et ça serait la bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'en championnat, on a bien compris que ça sera très très compliqué pour l'OM. Même si on en parle régulièrement dans le bar des supporters, il y a des blessés. Il y aura forcément un bilan à tirer au niveau du championnat. Il y a eu beaucoup d'erreurs de commises, beaucoup trop
d'erreurs, on le rappelle, dans la gestion, dans le mercato, voilà, toutes ces erreurs là que l'Olympique de Marseille paye un petit peu ce match face à Lens. Ça sera 21h et ça sera suivi bien sûr sur Maritime. Alors on va continuer ce débrief tranquillement avec Najib qui nous a rejoint au standard. Bonsoir à toi Najib.
Bonsoir à vous.
Bonsoir Najib, on a vu un Olympique de Marseille réduit à 10 contre 11 en deuxième mi-temps, mais un Olympique de Marseille valeureux qui a marqué ce deuxième but et qui peut-être méritait plus ce soir.
Alors oui, mais moi je rejoins le premier auditeur en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est besogneux, c'est vrai que on s'appuie sur notre mental et il nous reste que ça, mais à un moment donné on aimerait bien aussi voir un peu plus de qualité. Parce que on va chercher, on va puiser dans le mental, et heureusement qu'on a des joueurs avec un fort caractère qui nous permettent de remettre dans le jeu. Mais le football, à un moment donné, ça passe aussi par des qualités. Et là, encore une fois, ce soir, on voit qu'on est en manque de qualité, quoi. Parce que quand on met le deuxième but, le 2-1, c'est tout, faut savoir tenir. Le vrai mental, il aurait été là, en fait. Tu mets 2-1, tu sais que tu joues à 10 contre 11, t'as une mi-temps, ben tant pis, t'arrives à te défendre et t'arrives à pas te prendre de second but. Et quand on se prend ce deuxième but, on doit encore faire de preuves de mental et d'une certaine qualité quand t'es face au but. Parce que s'appuyer que sur le mental, c'est bien, mais on est une équipe de football. Faut revenir à la base, faut jouer au foot, en fait. Faut jouer au foot, et jouer au foot, c'est à un moment donné, quand t'es professionnel, savoir être juste quand t'es devant une situation, et quand t'es un attaquant de football professionnel face à un but dans un match comme ça, tu dois savoir élever ton niveau. Donc lui, on est vaillant.
Tu penses à qui quand tu dis ça, Iliman Ndiaye notamment?
Je pense à Iliman Ndiaye parce qu'il y a la balle. Alors j'ai pas, c'est méchant parce que j'ai pas envie d'être méchant. Le truc, c'est qu'à un moment donné, bonhomme, t'as la deuxième mi-temps sur un match comme celui-là, et t'es face au gardien. À un moment donné, c'est là où tu dois faire la différence. C'est là où on t'attend, en fait. C'est là où on t'attend. Tu dois faire la différence. T'as pas 50 ballons. T'as pas 50 actions. Tu sais quelle saison t'as vécu. Toi-même, tu le sais. On sait que ça l'a fait, ce transfert, cette saison, il y a cogité. On nous l'a dit. Ok, mais là, t'as tout, en fait. T'as tout dans tes pieds. Tu peux pas frapper comme ça, sans envie. Maintenant, je parle de Iliman Ndiaye parce que c'est la dernière action qui me revient en tête. Mais Correa, on en parle. Harit, on en parle. À un moment donné, merde, quoi. À un moment donné, on n'est pas, c'est pas une classe, c'est pas des mauvais joueurs. À un moment donné, appuyons, il nous faut de la qualité, excusez-moi. Je bafouille parce que ça me saoule, en fait, qu'on s'appuie à chaque fois sur du mental, alors qu'on est des footballeurs, on veut voir du football. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année? Est-ce que vous travaillez devant le but? Quel joueur a évolué? On arrive à la fin du championnat, entre juin et là, juin 2024, qui a évolué? On voit pas de qualité.
C'est ce qu'on dit finalement, Najib, depuis à chaque fois, à chaque fin de débrief ou même dans les émissions quotidiennes sur Maritima, dans le bar des supporters, cette qualité technique qui manque actuellement à l'Olympique de Marseille. Mais pour rester sur le cas Iliman Ndiaye, Jacques, c'est vrai que ce soir l'international sénégalais, il a vu l'opportunité de retourner un petit peu la tendance contre lui, parce qu'on l'a vu quand il est rentré, beaucoup de personnes l'ont sifflé ce soir.
Et Iliman Ndiaye, c'est impressionnant, son manque de progression, justement, Najib nous en parlait. C'est un joueur que l'on a recruté pour sa technique, et on voit régulièrement son défaut, et il ne l'a pas travaillé. Tu l'as vu, tu le sais, Enzo. Pardon, quand tu as des jeunes enfants à entraîner, il faut leur apprendre à lever la tête pour une prise d'information, quelle qu'elle soit. tu reçois le ballon, le contrôle, tu fais une passe, tu dois savoir à qui tu l'envoies, tu t'informes avant de recevoir, tu t'informes après, mais dans tous les cas, tu t'informes. Là, sur cette action-là, il doit partir au but, il doit lever la tête pour savoir où se situe le gardien, et à ce moment-là, avec son plat de pied, il place le ballon. Et bien lui, non, malheureusement, il n'a pas l'information, donc il est capable de s'empêtrer dans le poteau. À un moment donné, si tu ne lèves pas la tête, tu es en train de nous saouler. Voilà, tu comprends ça? Tu nous saoules. Maintenant, stop, c'est plus possible.
Ouais, Najim, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, Jacques, moi je te rejoins parfaitement. Ça veut dire que j'ai pas l'impression, en fait, qu'il prend le degré de l'importance, tu sais. J'ai pas l'impression qu'il y a conscience de l'importance de l'action. Tu sais très bien que dans un match de football, t'as quelques occasions, t'en as pas 50 000, et ben le peu que tu as, tu dois savoir les transformer. Et il y a autre chose, si tu me permets, Enzo, on n'est pas revenu sur la patinage artistique en première mi-temps. On a des joueurs qui glissent. Mais si tu
glisses comme ça, sincèrement, Najib, ce n'est pas la première fois qu'on voit les Marseillais glisser. Si c'est la première fois, on peut mettre ça sur le coup peut-être de la pelouse trop mouillée. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est à domicile, les Marseillais glissent.
On est bien d'accord que ça démontre quand même quelque chose de bizarre sur l'application. Vous êtes des professionnels de la radio. Avant de faire votre émission, vous faites un check-up, vous contrôlez. Est-ce qu'il y a tous les branchements? Est-ce qu'il y a tout le matériel? Moi, dans mon métier, je suis professionnel. Avant de faire quelque chose, je dois vérifier. Mais eux, ce sont des footballeurs professionnels. Avant de jouer, j'espère quand même qu'ils vont repérer le terrain. Quel est l'état de la pelouse? Quel est le meilleur équipement que je vais devoir sortir? Est-ce que c'est normal qu'en début du match, tu glisses? Si tu glisses, je suis désolé. Ça démontre quand même, à un moment donné, un manque d'implication dans la préparation du match. Et ce sont ces tout petits manques d'implication que tu continues depuis le début de la saison qui font qu'on arrive à cette saison catastrophique, en fait. Parce que moi, quand je regarde le match au début et que je les vois glisser, je me dis, mais c'est une blague, en fait. C'est une blague. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui prépare le match. Il n'y a personne qui vient vous dire, attention les gars, la pelouse, elle est de ce type-là, donc il faut mettre cet équipement-là. En fait, à un moment donné, c'est quoi être professionnel?
C'est ce que tu dis, Najib. Je ne sais pas si ça manque quelque chose d'implication, parce qu'il faut qu'on se le dise, ce sont des joueurs professionnels, et ils le savent, l'importance qu'a de se bien cramponner. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question sur aussi la pelouse, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop arrosée? Jacques le dit régulièrement aussi dans les directs et dans les retransmissions. Merci, Najib, d'avoir été avec nous, d'avoir réagi sur Maritima après ce match nul de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, 04 42 41 36 15 pour nous appeler, pour réagir à chaque fin de match dans les débriefs du bar des supporters. Jaco, on va parler d'un autre joueur. On en parlait d'Inima Ndia, on a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler d'un autre joueur, c'est Paul Lopez. Il devait entre guillemets se racheter un petit peu, Paul Lopez, après son match de dimanche. Est-ce que tu penses qu'il est fautif, Paul Lopez, sur ce but niçois, le premier notamment?
Le deuxième. Il n'y a pas une sortie exceptionnelle. Il y a une sortie comme un gardien de hand, même si c'est pas sa faute, il fait partie des fautifs, comme peut l'être Samuel Gigot. 70-30, 80-20, mais malgré tout, il n'est pas irréprochable. Par contre, sur le deuxième but, excuse-moi Enzo, il ne pousse pas. C'est un gardien très grand. Hein, qui a avec ses mains et son bras, qui peut aller très très loin au niveau du développement. Malheureusement, quand Barre arrive, il est capable de prendre le temps de faire une reprise de volée, et ça va au ras du poteau, et il n'arrive pas à pousser sur ses jambes. Ce n'est pas la première fois. Alors au niveau aérien, on le sait, il n'est pas bon, et au sol maintenant, il est moyen. Donc moyen plus mauvais, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Je vous dis sincèrement, les gars, je vous le dis tranquillement, on ne pourra pas la saison prochaine continuer avec Paul Lopez. Si tu veux aller loin dans le championnat, il faut avoir un défenseur central comme peut l'être Mbemba et Balerdi, pas Gigot. Tu ne peux pas avoir Paul Lopez, tu ne peux pas l'avoir Iliman Ndiaye. C'est pas possible, c'est complètement insuffisant.
Eh ben, on va continuer de parler de Paul Lopez avec Abdel qui nous a rejoint au standard. Salut Abdel, bonsoir à toi.
Oui, bonsoir Enzo. Ben écoute, c'est
Abdel,
vrai.
Abdel, pour continuer sur Paul Lopez, est-ce que il est fautif sur ce deuxième but des Niçois?
Ben oui, il fait toujours des sorties hasardeuses. Déjà pour les relances, vous en avez parlé tout à l'heure. Chaque fois qu'il relance, c'est relance en plein axe. Et il attend, on dirait un toréador. Et à un moment donné, stop, quoi, parce que tout le monde tremble. À un moment donné, il faut jouer de l'avant. Il ralentit le jeu. C'est-à-dire que des fois, tu es dans des positions un petit peu offensives. S'il relance, tu peux prendre le dessus. Là, il ralentit le jeu. C'est-à-dire que le mec, il donne l'avantage à l'équipe adverse. À un moment donné, stop. Contre Toulouse, c'est pour lui. Là, on a failli se prendre un truc. C'est pour lui. À un moment donné, stop. Mais je voulais pas parler de Paul Lopez. Mais lui, il me gonfle. C'est un truc de fou. Je suis désolé. J'ai pas l'habitude, moi, de dénigrer les joueurs.
Abdel, pour faire un petit peu l'avocat et essayer de faire l'avocat de Paul Lopez et de voir un petit peu et d'analyser ce deuxième but contre les Marseillais, est-ce qu'aussi on peut pas mettre la faute sur la défense marseillaise, sur cette tête un petit peu dans l'axe de Amir Mourinho et la défense marseillaise qui ne monte pas assez vite sur le porteur Melvin Barre?
Non, mais c'est sûr, de toute manière c'est collectif, on est dans un sport collectif. Bien sûr que quand une défaite elle se fait, eh ben elle est collective, quand tu fais une victoire c'est collectif aussi. On remet pas ça en question. Simplement, ce qu'il y a, c'est que c'est le dernier rempart. Lui, il doit mettre en confiance toute sa défense. Il doit mettre en confiance ses attaquants. Il doit mettre en confiance toute l'équipe. C'est ça, le truc. Il y a pas de truc. Après, à un moment donné, c'est vrai. Si tu prends Benfica, il fait le match de l'année. Heureusement. Mais moi, ce que je voulais reprendre, je vais rebondir sur autre chose. On tire pas au but. Comment veux-tu marquer? On tire pas au but, on dirait qu'ils ont peur, le syndrome du tireur de but. Ils sont devant, ils tentent pas. Harry, ils tentent pas, personne qui tente. À un moment donné, on peut pas s'appuyer que sur Aubameyang. C'est pas possible.
Ouais, tu parles d'Amin Harit parce que je ne sais pas si tu étais au stade, Abdel, mais c'est vrai qu'Amin Harit, il a eu deux, trois situations à l'entrée de la surface et je ne sais pas si tu as remarqué, mais deux, trois fois quand il devait aller frapper, tout le public pensait que ça allait frapper et au final, Amin Harit n'a pas frappé. Quel est pour toi le problème de ça? Est-ce que c'est un problème peut-être de confiance? Comment on peut l'expliquer?
Non, mais c'est sûr. Oui, j'étais au stade pour répondre à ta question, Enzo. Mais je sais pas. On dirait qu'ils ont peur de louper. Mais n'aie pas peur de louper. Et plutôt l'envie de gagner. Et plutôt l'envie de marquer. Tu tires. Regarde, je reprends pas le truc. Je suis abonné depuis 98, moi. Je suis virage nord. T'as eu des joueurs, des mecs, ils balançaient. Et balancer, tu prends un mec comme il s'appelle de là, qu'on avait là.
Je sais pas de qui tu parles. Abdel.
Ouais, non, mais
ouais, tu peux poursuivre.
Voilà, donc c'est tu peux poursuivre, Abdel. Qui tente. Non, mais oui, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut Djibril Cissé, voilà, ça me revient. Djibril Cissé, tentez, même s'il va en danger un peu, mais tentez, les mecs ils avaient peur. La défense, elle était haute, et voilà. Mais là, on tire pas. Ce soir, comme plein de soirs, les mecs, ils tirent pas. Comment veux-tu marquer si tu tires pas? Il faut tirer pour marquer, quand même. Après, tu cadres pas, au moins la défense, eh ben, elle a peur, elle va, voilà, c'est tout. Mais on tire pas. Il n'y a pas que Harit, hein. Harit, il fait partie
ouais,
des
seulement, trucs,
mais
seulement 11 tirs ce soir pour seulement 11 tirs ce soir pour l'Olympique de Marseille contre 10 pour les Niçois et 4 tirs cadrés. Ça montre aussi l'inefficacité et le manque voilà de technique de certains joueurs marseillais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Abdel. Merci de nous avoir appelé.
À un moment donné, merci on Abdel. On vit dans la frustration. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao.
Merci et à très vite, 0442 41 36 15. Vous connaissez le numéro pour les prochains débriefs du bar des supporters. Jaco, il y en a un qui faisait son retour ce soir, c'est Jonathan Kloss. Il a marqué, il a réalisé 65 très très bonnes minutes.
Oui, Jonathan Kloss, c'est le joueur titulaire indiscutable. On l'a dit régulièrement, Mourinho a fait le travail qu'il fallait défensivement. Par contre, il n'a pas les qualités offensives qu'a Kloss. Et évidemment, le couloir droit, quand tu lèves Mbemba, défenseur central, Kloss et Sarr, ça n'a absolument rien à voir. Donc cet effectif de l'OM est amputé. Et quand tu vois ce qu'est capable de faire Kloss, ça fait du bien. Il a été il a été très bon, il a tenu, il est sorti à la 65e, je l'ai pas vu fatigué. Paradoxalement, par contre, Veretout était épuisé, lui Jonathan Clauss était en capacité de continuer, mais Jean-Louis Gasset a bien fait de le faire sortir pour le maintenir en forme.
Ouais, bien entendu, parce qu'on va en avoir besoin de Jordan Veretout, de Jonathan Clauss également, de Geoffrey Kondogbia pour ces deux matchs très importants face au Racing Club de Lens à domicile et face à l'Atalanta Bergame également à domicile jeudi prochain. On va continuer avec Steph Martins qui nous a rejoint. Salut à toi Steph.
Salut les amis.
Steph, ta réaction, ton sentiment un petit peu après ce match nul de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui ressort de ce match?
Beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que tu as le match, même en infériorité numérique, tu fais une très belle deuxième mi-temps où tu montres du caractère, chose qu'on n'a pas souvent vu cette saison. Tu arrives à mener au score, à reprendre l'avantage. Et derrière, il y a le 2-2 qui peut te mettre la tête sous l'eau, mais non, tu repars de l'avant. Après, voilà, vous en avez parlé, tu as Ilman Ndiaye qui rentre, quand il rentre, je dis allez, Mino, c'est à toi de faire la différence. Et deux secondes d'après, donc, voilà, ça fait plaf. Voilà, comme vous en avez parlé en amont, il aurait pu se laver la tête, se vider les esprits, se rebooster pour cette fin de saison où on aura besoin de tout le monde. Eh ben non, il va encore mal dormir ce soir et avoir encore la tête qui tourne parce qu'il fait à chaque fois les mauvais choix. Il n'est pas hargneux devant le but. Voilà, c'est trop gentil. Tu dois l'enfoncer au gardien. Tu dois lui casser la cage. C'est pas normal qu'on rate ce genre d'occasion-là. Après, tu n'as pas la réussite aussi. Ce que fait Aubameyang est tout simplement exceptionnel. Ça se joue à 5 cm. Encore une fois, voilà, c'est faut t'as pas de chance. Après, voilà, il y en a plein qui disent qu'il n'y avait pas pénalty. Apparemment, tout le monde le confirme. Donc l'arbitre aussi a mis la sienne. Il n'y avait pas carton rouge, pardon, a mis la sienne ce soir aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, un bon match des Marseillais. Parce qu'en infériorité numérique, tu as su montrer que tu étais chez toi et que tu
et presque aurais pu, Steph, tu à 10 contre 11, l'OM a presque été. Et Steph, presque oui, l'OM a été mieux à 10 qu'à 11.
A été meilleur, a montré du tempérament, a montré de l'envie, a été très très bon dans les phases offensives et dans la verticalité, chose qu'on voyait vraiment très 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 peu cette saison. Et après, voilà, toujours pareil, on va parler de qualité. Je parle pas de l'action d'Aubameyang, parce qu'avec 90 minutes dans les jambes, il fait une course de 50 mètres, il passe entre les deux défenseurs.
Ouais, on peut pas lui en vouloir, Aubameyang.
Non, il a la lucidité, parce que si c'est au fond, tout le monde est crié au génie. Mais par contre, Ndiaye, il a pas le droit, il vient de rentrer à 3 minutes, il est frais, il doit lui casser la cage. Et c'est ce genre de choses-là qui te font basculer un match, qui te font peut-être rater une place européenne, même si c'est encore jouable avec si Paris vient à battre Lyon en finale de Coupe de France, il y aura la 7e place qui sera qualificative. Mais après, voilà, comme on se répète encore semaine après semaine, match après match, tu as 3 ou 4 situations aux 20 mètres où les mecs, ils sont plein axe. Et qu'est-ce que ça fait? Soit ça revient derrière, soit ça écarte sur les côtés, alors que tu as 303 Nice. Non, mais au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on me dise il a la peur, il a pas la peur. Non, quand tu es un joueur de football professionnel et quand tu es un offensif, quand tu es aux 20 mètres plein axe et que tu as le sang ouvert pour frapper, tu frappes. Tu dois pas gamberger. Et c'est ce qui nous manque. Il nous manque, voilà, ce talent-là. Voilà, j'ai pas encore parlé des coups francs phénoménales de notre Andrea Pirlo, parce qu'apparemment, on a Pirlo à l'OM. Je savais pas. Parce que quand tout tiré encore ce soir, tous les coups de pied arrêtés, le seul coup de pied arrêté qui a été dangereux, c'est quand c'est Garcia qui l'a tiré. Au bout des moments, moi, je comprends pas.
Il me semble que c'est le coup franc, ouais. Il me semble que c'est le coup franc en première période de Luis Garcia qui touche la tête de Leonardo Balerdi, mais Marcin Bulka qui vient se saisir du ballon. Mais c'est vrai, encore une fois, c'est Jordan Veretout qui tirait les coups de pied arrêtés côté Olympique de Marseille. Messieurs, passons au top 3 et au flop 3. Ouais, Steph. Ouais, c'est ça, très mal tiré encore une fois. Mais voilà, tu le disais, le meilleur, voilà, le coup franc le mieux tiré, c'était celui de Ulysse Garcia. Messieurs, passons au top 3 et au flop 3. Jacques, je vais te donner la parole en premier. On va parler des flops. Ton flop 3.
Ah, le flop 3 numéro 1, bien entendu, je vais mettre Illiman Ndiaye comme d'habitude. C'est le joueur qui m'a saoulé, je te le dis sincèrement. Pas très loin du tout, je vais mettre Paul Lopez, parce que Paul Lopez, ses relances plein axe, ses façons de gérer le match, encore une fois, il est encore à la cave sur le deuxième but, j'en peux plus. Il nous a fait un bon match contre le Benfica, oui, ok, pour le reste, c'est complètement insuffisant, et après le fantôme d'Amin Harit. Amin Harit, je ne sais pas, je le reconnais plus. Tout ce qu'il fait, il rate. Il y a absolument plus rien actuellement de Amin Harit.
Ouais, match très compliqué encore une fois pour Amin Harit qui faisait son retour. On le rappelle, il était suspendu dimanche à Toulouse. Steph, ton flop 3 à toi.
Numéro 1, Veretout. Énormément de pertes de balles, de jeux vers l'arrière. Aucune prise de risque, aucune initiative. Oui, courir, si c'est que courir, comme je me répète qu'il allait faire de l'athlétisme. Aucun coup de pied arrêté bien tiré. Donc franchement, ce soir, il m'a gavé. En 2, Harit, pareil, je rejoins Jacques à 100%. Et en 3, j'hésitais entre Garcia, que j'ai trouvé un peu fragile sur son côté gauche. Mais sincèrement, Lopez voilà, mérite d'être dans les flops ce soir. Et que dire de sa relance sur le Niçois, que moins d'eux se prennent but. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries. On
dirait qu'ils ne
travaillent pas la vidéo. Ils ne travaillent pas la vidéo, les mecs, c'est pas possible. Parce que quand tu travailles la vidéo, normalement, tu ne reproduis pas les erreurs que tu fais. Et on reproduit, match après match, les mêmes bêtises sur les coups francs, les mêmes bêtises sur les centres de frappe au 18 mètres, au 20 mètres, les mêmes bêtises avec les relances de ton gardien. Donc, j'ai l'impression que tu ne dois pas travailler à l'entraînement, c'est pas possible.
Allez, Steph, calme-toi un petit peu et parle-nous de tes top 3, les 3 joueurs un petit peu. Que tu as trouvé au-dessus du lot ce soir?
Ce que j'ai trouvé au-dessus du lot ce soir, je vais te mettre Aubameyang, qui a Tantos, qui a fait 65 minutes vraiment de très haut niveau et un but tout simplement exceptionnel. Et après, j'en mettrai 4, je mettrai Balerdi et Kondogbia, que j'ai bien aimé ce soir.
Ouais, toujours pareil, finalement, dans ces top 3, les joueurs qui ne déçoivent pour le moment jamais, Jacques.
Ben, c'est exactement les mêmes, hein. Ils sont écrits, je ne peux pas tricher, je les ai écrits tout à l'heure, donc je rejoins Steph, Aubameyang, Balerdi et Klos, c'est les joueurs qui nous font vibrer, c'est les joueurs qui nous font plaisir, c'est des masterclass. Si on pouvait avoir 70% de l'équipe avec leur qualité et leur physique, on n'en serait peut-être pas là.
Steph, match important dimanche, mais un autre match important c'est jeudi face à l'Atalanta. Est-ce qu'il faut reposer les cadres dimanche, notamment Aubameyang, notamment Balerdi, notamment Kondogbia? De quel côté tu te positionnes toi?
Non, tu es obligé de jouer le championnat à fond parce que voilà, comme on l'a dit en avant, il y a peut-être une 7e place qui pourra décrocher une place européenne. Tu es qu'à 1 point de Lens, si je ne dis pas de bêtises, et à 5 points du 6e, du 5e, pardon. Donc non, il faut continuer, il faut jouer les matchs, c'est une belle affiche à faire. Et si tu joues avec le même état d'esprit et avec le même engagement que tu as mis ce soir, sincèrement, tu peux battre Lens et ça te sera que de bon augure pour pouvoir arriver vraiment gonflé à bloc face à l'Atalanta. Parce que si tu fais tes cadres et que tu perds 3-0, dans quel état d'esprit tu arrives, je dis? Elle est là la problématique. Ce soir, tu peux sortir avec quand même, suivi Jean-Louis Gasset, je dis les gars, il y a faute à pas de chance. Mais bravo, vous avez fait un match, ce soir un match d'homme. À part quelques joueurs qui ont été en deçà, il faudra les prendre en individuel. Mais ce soir, on a vu du ballon. On a vu ce qu'on voyait rarement. Donc, la chance, elle n'a pas tourné de notre côté.
Sachant que l'Olympique de Marseille ne va pas jouer face à une équipe de Lens à 100% pleine confiance, parce que sur les 5 derniers matchs, Lens s'est imposé une seule fois, 3 défaites et un match nul, notamment une défaite face à Metz, un match nul face au Havre, une défaite face à Lille. Donc c'est un Lens prenable. Voilà comment appeler ça dans le contexte actuel pour l'Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens. Merci Steph d'avoir réagi après ce match nul de l'Olympique de Marseille. Merci et à très vite, bien entendu. Jacques, ben voilà ton avis sur la même question. Toi, comment tu te positionnerie, il faut faire souffler ou au contraire, comme le dit Steph, parce que c'est intelligent ce que nous dit Steph, hein, repartir après Lens avec un plein de confiance pour jouer face à l'Atalanta?
Oui, je rejoins Steph, ça peut être une idée. Par contre, actuellement, il faut regarder ce qui se passe à l'OM, c'est-à-dire la fatigue physique, la fatigue mentale, et s'il y a des besoins de souffler certains cadres, il faut les faire souffler pour pouvoir essayer d'aller au bout de cette compétition qui nous ferait rêver. Je pense que Lens est en difficulté. Maintenant, c'est vrai que se passer de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est très très difficile. Donc il y aura encore un dilemme à Jean-Louis Gasset. Il va falloir qu'il nous dénoue un peu tout ça.
Oui, sachant que Faris Moumbagna sera suspendu. Donc, impossible de faire jouer Moumbagna et de faire donc souffler Pierre-Emerick. Aubameyang, on le rappelle, deux buts partout entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Ce soir, les deux buteurs côté Marseille, Jonathan Clauss à la 31e et Pierre-Emerick Aubameyang qui transforme le pénalty à la 54e minute de jeu. Un petit point au classement. L'OM est donc 8e au classement ce soir à 5 points de la première place qualificative pour les places européennes. 5 points de Lens qui a 46 points. Ça sera le futur adversaire de l'Olympique de Marseille ici même au Vélodrome dimanche soir à 21h. Merci Jaco pour cette soirée sur Maritima.
Merci Enzo, bonne soirée à tout le monde.
Merci à tous de nous avoir suivis et voilà, on se quitte donc après ce match nul des Marseillais, deux buts partout face à l'OGC Nice. Excellente fin de soirée sur Maritima.
Pour Luis Enrique, est-ce qu'il va aller provoquer le centre? Ça arrive jusqu'à Clauss, la frappe de Clauss et ça va au fond, ça va au fond. Jonathan Clauss est de retour. Johninho is back. Oui, mesdames, messieurs. Oh là là, on se posait la question. On disait il y a une minute, Jonathan Clauss est dans la gestion. Il ne peut pas prendre de risque. Contrôle et frappe enchaînée du numéro 7 de l'Olympique de Marseille qui fête son but devant le virage sud. Allez, Jaco.
Allez, mon poulet.
Allez, Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, mon chéri. Est avec toi. Vas-y, mon petit. Mets-le au fond. Marque. Le deuxième but de l'Olympique de Marseille. La concentration de l'international gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas tiré, je le rappelle, lors de la séance de tir au but. C'est parti. Ça va au fond. Ça va au fond. Pierre-Emerick Aubameyang, le roi du Gabon, qui donne le deuxième but à l'Olympique de Marseille sur ce pénalty. Merci au roi du Gabon de marquer encore et toujours. Il est parfait sur pénalty et il est récompensé pour son match plein d'admiration. J'arrive plus à parler, mon Jaco. Je suis fatigué. On est fatigué. Les l'OM mettent 2-1.
silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Lay my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence.
24h/24, retrouvez tout l'univers Maritima. Radio, TV, podcast, replay vidéo sur maritima.fr.
Live in a broken home, girl, I'm back.
Begging, begging, begging.
cigares, on nique tes morts sur le vieux port. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canopière, on nique tes morts sur le vieux port. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Et ça fait zoom, marque à faire. Oh. Et je suis dans le 4, t'as teinté. Oh. Et ça fait zoom, marque à faire. Oh. Et je suis dans le 4, t'as teinté. Café au carnaval, et je suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale, et ça fait zumba. Café au carnaval, et je suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale, et ça fait zumba. Café au.
Son la bembe burro con el pescuezo en violín. Y yo, y la sangre.